Bonsoir à toutes et à tous, il est 19h04, passé de 12 secondes sur Transistor et après quelques petits soucis techniques qui expliquent ce retard, mais promis, on va le rattraper, toute l'équipe est donc là et on démarre tout de suite pour vous retransmettre l'actualité mixée, égalisée, montée et bien sûr amplifiée. Alors le programme, vous le connaissez, hein, on aura une revue de presse, une notion pourrie avec Arthur, l'édito économique et puis ensuite on passera à la culture avec bien sûr le journal de la culture, la chronique musicienne, l'édito scientifique. Et on terminera avec un petit peu d'actualité de la radio, mais tout de suite, on commence par le journal. Et au sommaire de ce journal, il sera question de prix du carburant, de l'itinérance mémorielle d'Emmanuel Macron qui occasionne une nouvelle petite polémique. Et puis on passera à l'international avec l'élection de Jair Bolsonaro et puis les midterms aux États-Unis. Bienvenue donc à toutes et à tous pour le journal radiophonique amplifié. Et on commence tout de suite avec un journal qui est préparé par Arthur Maëléo et Marie. Au national tout d'abord, Arthur.
Nouvelle petite phrase de notre président ce 7 novembre durant son itinéraire mémoriel. Pas méprisante cette fois, mais légèrement choquante. Pétain, grand soldat de la Première Guerre mondiale, aux erreurs funestes durant la Seconde. Avec cette thèse qui sent bon les années 60, Emmanuel Macron a soulevé un tollé quelques jours avant la célébration du centenaire de l'armistice du 11 novembre. Était-ce une erreur ? Ou était-ce un choix pour couvrir la polémique du carburant ? En tout cas, celle-ci a quelque chose de puant pendant que Zemmour est à la tête du classement. Et Emmanuel Macron, ne retirant pas sa phrase, accuse une police de l'histoire qui lui est tombée dessus. Errare humanum est, perseverare diabolicum.
Prix du carburant, les automobilistes grognent. Suite à l'annonce par le gouvernement des taxes sur le carburant, Macron chute dans le cœur des personnes motorisées. Les gilets jaunes attendaient le chef de l'État à Albert, en Somme, aujourd'hui, et ont dû être évacués. Les fausses infos fusent, notamment l'idée selon laquelle la hausse des taxes a été pensée pour compenser la baisse des taxes d'habitation. La hausse des prix du carburant est seulement liée à un tiers, finalement, aux taxes de l'État, et le reste étant imputable à la hausse des prix du baril. J'espère qu'entre toutes ces hausses et ces baisses, vous y retrouvez. Les récriminations vont bon train pourtant et des blocages routiers sont prévus le 17 novembre au Grand Dam de Matignon.
Le 5 novembre, deux immeubles se sont effondrés dans le quartier populaire de Noailles à Marseille. 8 morts ont été retrouvés au moment où nous parlons. En 2015, cette copropriété avait été frappée d'un arrêt de péril en raison de son insalubrité et de sa vieillesse. Deux de ces immeubles étaient censés être vides étaient squattés par des sans-papiers ou des SDF ou vendus avec par des marchands de sommeil. Le maire Les Républicains, Jean-Claude Godin de l'arrondissement, est accusé en raison de son indulgence envers ces mêmes marchands de sommeil et de son utilisation de l'argent public pour les différents projets urbains, par exemple pour le stade Vélodrome ou pour affronter les pires ennemis de Marseille dans le quartier de la Plaine, à savoir déraciner des arbres.
Et tout de suite, on passe à l'international avec ton premier sujet, Marie.
Élu à la tête du Brésil avec plus de 55% des suffrages le 29 octobre dernier, Jair Bolsonaro, considéré comme candidat anti-système d'extrême droite, a commencé à rassembler les ministres qui formeront son gouvernement et affirme avoir déjà attribué 80% des postes. Le parlementaire Onyx Lorenzoni, membre du parti de droite, homme d'affaires et député ouvertement anticorruption, fait figure d'homme politique expérimenté et a été nommé chef d'un gouvernement restreint de 16 ministres contre 30 actuellement. Sergio Moro ensuite, le juge qui a mené l'opération anticorruption Lava Jato et condamné Lula à 12 ans de prison pour blanchiment d'argent, s'est vu attribuer la tête d'un ministère de la justice aux pouvoirs étendus. La direction d'un super ministère de l'économie, elle, revient à l'ultralibéral Paulo Guedes, désireux entre autres de vendre la quasi-totalité des entreprises publiques, tandis que l'astronaute Marcos Pontes officiera au ministère des sciences et de la technique et que le futur ministère de la Défense, le général Augusto Heleno, a annoncé préconiser le recours aussi aux snipers des forces de sécurité pour lutter contre la criminalité. Est également en suspens une décision qui a fait beaucoup parler d'elle, la fusion alarmante et très critiquée des ministères de l'Environnement et de l'Agriculture.
Aux États-Unis, actualité extrêmement chargée la semaine précédente. Tout d'abord, les résultats des midterms, élections visant à renouveler entre autres la totalité de la Chambre des représentants et un peu plus d'un tiers du Sénat, les deux chambres du Congrès. Les républicains ont perdu la majorité à la Chambre des représentants, où les démocrates ont emporté au moins 219 sièges, la majorité étant à 218. Le Sénat, lui, est resté républicain, ces derniers atteignant la majorité de 51 sièges sur les 100 totaux. Le pays reste donc fortement clivé, souligné par les élections également de plusieurs gouverneurs d'État qui se sont révélés extrêmement serrés, au pourcent près dans certains cas. Les démocrates ont acquis ainsi la capacité d'entraver fortement le programme de Trump, qui va devoir négocier avec eux pour continuer à l'appliquer.
On passe maintenant des États-Unis au Pakistan pour évoquer une affaire qui ébranle la communauté internationale. Asia Bibi, chrétienne condamnée à mort en 2010 pour avoir bu l'eau d'un puits réservé, en principe, aux musulmans, avait été acquittée par la Cour suprême le 31 octobre dernier. Mais la décision n'a pas plu aux islamistes qui affirment que les lois anti-blasphème doivent s'appliquer contre Asia Bibi. Ils ont paralysé le pays durant 3 jours de manifestations suite auxquelles le gouvernement a signé un accord controversé avec les islamistes et engagé une procédure visant à empêcher Asia Bibi de sortir du pays. Si la chrétienne, devenue symbole de la résistance contre l'extrémisme, aurait été libérée de prison hier pour être placée dans un endroit sûr, sa situation suscite la mobilisation de la communauté internationale. En France, Anne Hidalgo et Laurent Wauquiez ont notamment appelé le gouvernement à intervenir pour, je cite, « sauver la vie d'Asia Bibi ».
Un mois maintenant que le journaliste saoudien Jamal Khashoggi est mort au consulat saoudien à Istanbul en Turquie. Le procureur d'Istanbul a ainsi affirmé la semaine dernière qu'il avait été vraisemblablement égorgé et démembré dans l'enceinte du consulat par un commando venu d'Arabie Saoudite, tandis que la presse turque indique, selon ses sources, que le corps aurait été dissous dans de l'acide et que l'ordre d'assassinat serait venu du sommet de l'État saoudien, continuant de braquer les projecteurs sur le prince héritier du royaume, Mohamed Ben Salman. Les bribes d'explications contradictoires du royaume sont loin d'avoir convaincu la communauté internationale, plusieurs États ayant revu leurs relations diplomatiques et économiques avec le royaume, notamment en annulant leur venue au Davos du désert à Riyad. Une première fêlure est ainsi apparue dans le soutien militaire aveugle que fournissaient notamment les États-Unis et la France à la coalition menée par l'Arabie saoudite contre les rebelles houthis au Yémen. Les deux pays ont en effet tous les deux appelé à la fin du conflit et à l'ouverture de négociations. La très difficile photo d'Amal Hussein, petite fille yéménite de 7 ans, rachitique, publiée par le New York Times il y a 10 jours, illustre tristement l'état catastrophique du pays, ravagé depuis 3 ans par la guerre, la faim et les maladies comme le choléra. L'ONU estime ainsi que les 3/4 de la population yéménite ont besoin d'aide alimentaire et médicale d'urgence. Amal, elle, est morte de faim 3 jours après la publication du reportage.
Et le mouvement Nuit Debout se poursuit.
Après ces incursions au Yémen et au Pakistan, je vous propose maintenant de vous attarder sur une crise nationale qui, là aussi, est encore loin d'être résolue. Cette crise, c'est celle qui ébranle le Sri Lanka, un pays insulaire situé au sud de l'Inde, dans l'océan Indien, qui fut une colonie portugaise, hollandaise et finalement anglaise jusqu'à son indépendance en 1948, je ne vous apprends sans doute rien. Mais alors, que se passe-t-il actuellement au Sri Lanka ? En fait, le pays a plongé dans une crise politique le 26 octobre dernier, lorsque son président, Maithripala Sirisena, en fonction depuis 2015 et chef de file du Sri Lanka Freedom Party, un parti progressiste et démocrate de centre-gauche, a annoncé 2 décisions inopinées. D'abord, la suspension du Parlement, et ensuite, le limogeage du Premier ministre Ranil Wickremesinghe et son remplacement par Mahinda Rajapakse, qui n'est autre que l'ancien président autoritaire du pays. Ces décisions, que le président justifie par des accusations de tentatives d'assassinat et d'une politique laxiste à l'égard de la corruption envers l'actuel Premier ministre, sont pour beaucoup inconstitutionnelles. Un des autres problèmes, c'est que Rajapakse est connu pour avoir violé les droits de l'homme et réprimé violemment la minorité tamoule du nord du pays lors de la guerre civile sri-lankaise, un élément essentiel pour comprendre l'histoire du pays et sur laquelle il pourrait être l'occasion de revenir.
Eh bien alors justement, cette guerre civile sri-lankaise, qu'en est-il ?
Alors c'est vrai que ça mérite quelques explications. Cette guerre civile, elle a opposé, entre 1983 et 2009, 2 camps antagonistes. D'un côté, le gouvernement du Sri Lanka, dominé par la majorité sigalaise, le principal groupe ethnique du pays, et de l'autre, les Tigres de libération de l'Ilam Tamoul, ou Tigre Tamoul, une organisation indépendantiste qui prône la création d'un État tamoul indépendant dans le nord du pays. Mais alors, quelles sont les raisons du conflit ? Elles sont nombreuses et remontent parfois à plusieurs siècles. Déjà, Saint-Gallais et Tamoul affirment chacun avoir été les premiers occupants du pays. Et ensuite, des guerres ont opposé ces deux parties de la population dès le Moyen-Âge. Enfin, et c'est pour beaucoup la principale raison du conflit, les Tamouls ont bénéficié d'un traitement de faveur de la part des colons anglais.
Un traitement de faveur?
Eh bien oui, c'est ça. Autrement dit, l'arrivée au Sri Lanka de Tamouls venus du continent britannique, la surreprésentation des Tamouls dans le service public, alors qu'ils ne représentent pourtant qu'une minorité de la population, et des écoles créées principalement au nord du pays, c'est-à-dire dans la région principalement tamoule.
Cette guerre civile, du coup, a dû mener à des affrontements nombreux, j'imagine.
Alors, en effet, elle a été particulièrement violente. Sans citer toutes les étapes, on peut distinguer plusieurs phases du conflit. Dans un premier temps, des émeutes, qui font suite à plusieurs mesures, comme le remplacement de l'anglais par le singalais comme langue officielle du pays, ou l'arrestation du parti tamoul indien, sous couvert d'une recherche d'autosuffisance. Ensuite, et dans une deuxième phase, la création du LTTE engendre le début des violences. En 1976, en effet, est d'abord créé le Tamil United Liberation Front, qui revendique un État tamoul indépendant. Un an après, des affrontements meurtriers entre tamouls et forces de police entraînent la radicalisation de la communauté tamoule, dont une partie forme les LTTE, c'est-à-dire les Tigres de Libération de l'Elam Tamoul ou Tigres Tamoul. L'attaque d'une unité militaire du gouvernement par ces LTTE déclenche ensuite pogroms et violences à l'encontre des Tamouls, et c'est également le début des attentats suicides des LTTE. Dans un troisième temps, on est alors dans les années 80, l'Inde prend part au conflit. Elle signe un accord avec le Sri Lanka qui implique que le gouvernement fasse des concessions aux Tamouls, et l'Indian Peacekeeping Force, ou IPKF, s'engage à mettre fin au conflit. Le problème, c'est que cette IPKF est rapidement chassée, d'abord par les Tamouls, qu'elle a tenté de contraindre à rendre les armes, et ensuite par le gouvernement, hostile à une présence indienne trop importante sur son sol. Le dernier acte du conflit, des années 1990 à 2009, est marqué par une violence sans précédent et la défaite du LTTE. En 90, le gouvernement cherche à reprendre la ville de Jaffna aux mains des LTTE, en bombardant la zone et en plaçant la péninsule sous embargo. Se succèdent massacres et exécutions, et en 92, le président sri-lankais est tué dans un attentat du LTTE. En 94, le gouvernement singalais est défait, et le nouveau gouvernement dirigé par le Sri Lanka Freedom Party s'engage dans une stratégie de guerre pour la paix. Malgré cela, la violence continue et les attentats suicides se multiplient. Les années 2000, et j'ai bientôt fini, marquent la fin du conflit. Le gouvernement mène de puissantes offensives et acte une augmentation du budget de la défense. Et ces années 2000 marquent également la défaite de la LTTE, dont le dirigeant est tué par l'armée gouvernementale menée par le président Rajapaksa. Au total, le conflit aurait coûté la vie à plus de 80 000 personnes, dont une part importante de civils.
Et aujourd'hui donc, à quelle situation sommes-nous parvenus, Marie?
Eh bien, même si la guerre civile a cessé, la situation reste problématique, puisqu'on soupçonne d'abord le gouvernement d'avoir violenté les anciens membres du LTTE et que l'armée du gouvernement occupe toujours les zones du nord du pays.
On comprend donc que Rajapaksa est peu apprécié d'une partie de la population, mais pour revenir à la crise actuelle, quelles issues sont envisagées?
En fait, après la décision du président de nommer Rajapaksa Premier ministre, l'actuel Premier ministre, Ranil Wickremesinghe, que le président accuse de fraude et de corruption, a refusé de quitter son poste et a été soutenu dans sa contestation par des dizaines de milliers de Sri Lankais. Parallèlement à cette opposition, Rajapaksa, lui, commence déjà à nommer un nouveau gouvernement, tandis que ses partisans s'emparent des médias publics. Comment alors savoir si Wickremesinghe conservera sa place ou s'il sera remplacé par Rajapaksa au poste de Premier ministre? Eh bien, c'est sûrement le Parlement qui tranchera. Rajapaksa et Wickremesinghe, soutenus par la communauté internationale, ont en effet demandé que soit accordé un vote de confiance au Parlement, vote au terme duquel chacun espère obtenir le soutien de la majorité pour pouvoir gouverner, et vote qui devrait avoir lieu le 16 novembre, date que Sirisena a annoncée comme celle de la fin de la suspension du Parlement.
En attendant ce vote, donc, quel est le climat au Sri Lanka aujourd'hui?
Eh bien, un climat très tendu, puisque d'un côté, Rajapaksa multiplie les mesures pour obtenir le soutien de la population, il a notamment annoncé plusieurs baisses de prix, et de l'autre, les deux camps multiplient les défections et les marchandages. Certains députés tamouls, par exemple, affirment s'être vus proposer des sommes astronomiques, jusqu'à 2,8 millions de dollars, pour voter la confiance à l'ancien président Rajapaksa. Sirisena, lui, est accusé d'avoir limogé son ancien premier ministre, avec lequel il s'était pourtant associé pour les élections, afin de se rapprocher de Rajapaksa et de garder la main pour les prochaines élections. Une crise à l'issue incertaine donc, qui interroge aussi sur le rôle et les limites de la démocratie dans un pays au rouage et à l'histoire complexe, affaire à suivre.
Merci beaucoup, Marie.
journal radiophonique amplifié de Transistor, en direct avec vous jusqu'à 21h. Attention à vos oreilles.
Alors voilà, si on continue à prendre du retard, peut-être jusqu'à 21h, mais là, la virgule est pas tout à fait adaptée. Promis, à partir du prochain numéro, on se retrouve le jeudi soir à 20h, comme d'habitude. Mais pour l'instant, il est 19h19, passé de 30 secondes sur Transistor. Et on retrouve tout de suite la revue de presse. Bonsoir Mathilde.
Bonsoir Rémi.
Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
L'hyper revue de presse.
La revue de presse dans les journaux.
La revue de presse.
La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec Natacha Polony.
Revue de presse française. Et on commence cette revue de presse avec...
Alors avec quoi est-ce qu'on la commence justement?
Avec le chaos du périple mémoriel du président Macron. Parce que ce n'était peut-être pas une très bonne idée de mélanger passé et présent pour le président cette semaine. Sa volonté de commémorer la Première Guerre mondiale et en même temps de rencontrer les Français de ces fameux territoires en difficulté n'a pas été un grand succès, on peut le dire. Le Monde parle même d'un chaotique périple mémoriel. Entre la colère contre la taxe sur les carburants et la polémique créée par les propos du président sur Pétain, l'opération de communication n'a pas franchement été une réussite, sauf pour Charlie Hebdo et Le Canard Enchaîné qui en ont bien profité pour se faire plaisir avec les jeux de mots. Le premier titrait hier « En guerre contre les Français, Macron première gueule cassée » et Le Canard affirmait le même jour « Macron caresse les Français dans le sens du poilu ». À l'image de la guerre, Le Figaro, lui, préfère l'image de la marine. Le journaliste Guillaume Guichard affirme que députés et gouvernements sont sur le pont pour répondre à la grogne des Français. Le capitaine Macron a en effet tout intérêt à s'affairer pour éviter la mutinerie des petits marins hargneux sur son navire. Mais pas de souci, le gouvernement a tout prévu, comme le précise un autre article du Figaro, titré « Carburant, l'exécutif prépare un plan massif ». En plus, ça rime, c'est merveilleux. En fait, on ne le savait pas, mais les journalistes de Figaro sont des poètes. L'article liste donc les mesures proposées, comme le chèque énergie, une défiscalisation des aides au carburant ou la prime à la conversion.
Des mesures qui n'annoncent pas de gros changements en perspective, donc le gouvernement campe sur ses positions. Les automobilistes appelés à bloquer les routes le 17 novembre n'ont pas l'air très convaincus. Bref, le débat s'enlise.
Oui, mais il n'y a pas de souci à se faire, la Croix est là pour nous rassurer. Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy, faisait la une de la Croix hier pour inviter à la persévérance. Selon lui, l'action gouvernementale fera ses effets dans 2 ou 3 ans. Persévérance et patience donc comme solution. On n'aurait plus qu'à attendre en somme. Ou alors, on pourrait proposer des alternatives. C'est ce qu'a décidé de faire Libération, accueillant dans ses pages une tribune qui s'intitule « Taxons la viande plutôt que le carburant ». Et non, ce n'est pas un vegan hystérique qui l'a écrite, mais un juriste et essayiste, défenseur du droit des animaux qui s'appelle David Chauvet. Il part d'un grand rappel, la production et donc la consommation de viande participent plus au réchauffement climatique que la voiture. Alors lui aussi se risque au jeu de mots en écrivant qu'en ce moment, les automobilistes sont pris pour des vaches à lait. Ce qui lui permet de montrer qu'on peut défendre les deux en même temps, les vaches et les automobilistes, en taxant la viande plutôt que les carburants. Ça paraît plutôt sensé, en fait, puisque comme il l'explique, si les automobilistes peuvent se passer de viande sans problème, à défaut de solutions efficaces mises en place par le gouvernement, ils ne peuvent pas se passer de leur voiture. Et David Chauvet n'est pas tout seul à proposer de taxer la viande, puisque le même jour que Libération, Le Guardian a publié un article en faveur de cette démarche, s'appuyant sur les études du chercheur anglais Marco Springman. Le problème, c'est que la tribune de Libération, contrairement à l'article du Guardian, manque de quelques chiffres qui auraient permis de donner plus de poids à une proposition qui n'est pas si incongrue, étant donné la situation de la planète. À défaut d'être réellement convaincante, donc, la tribune a le mérite de lever un tabou, d'élever le débat, et c'est tout à son honneur d'oser mettre les mains dans le cambouis.
Et maintenant, dans Libération encore?
Oui, c'est Libération qui fait sa une d'aujourd'hui sur l'effondrement des 2 immeubles du centre-ville de Marseille. Le titre est accusateur, explicite et efficace, taudis de Marseille, Gaudin à la rue. La mise en cause du maire Les Républicains de Marseille se précise dans le sous-titre où l'on nous dit qu'un rapport de 2015 accablait déjà sa gestion de l'habitat insalubre. Le Figaro, dont la une traite du même sujet, a choisi un titre plus sobre, enquête sur la France des immeubles insalubres. Une enquête qui préfère dénoncer la lenteur des procédures dans le processus de réhabilitation des logements insalubres, plutôt que l'inaction du maire Jean-Claude Gaudin. Lorsqu'on ouvre les pages, on découvre même que c'est un maire qui a le sens des responsabilités, puisque l'article souligne qu'il s'est rendu rue d'Aubagne dans l'heure qui a suivi l'effondrement. Vous serez d'accord avec moi, je pense, pour trouver ça admirable. Non, personne, c'est étonnant. Étonnant aussi le choix de la une de La Croix ce vendredi sur le travail de mémoire des attentats de Paris du 13 novembre. Un choix étonnant parce qu'il semble un peu en avance et en même temps un choix précieux. La une sur le souvenir des attentats, au milieu des unes sur le souvenir de la Première Guerre mondiale, détonne. Et pourtant, il nous fait réfléchir sur la manière dont fonctionne la mémoire collective comme une représentation sélective du passé. Un article utile, donc, qui nous prouve qu'il vaut mieux prendre le temps de sortir un peu de l'actualité plutôt que de mélanger à tout va présent et passé.
Merci beaucoup, Mathilde, pour ta revue de presse, la première revue de presse. Et on continue tout de suite dans la chaude actualité médiatique avec ta notion pourrie, Arthur. De quoi s'agit-il aujourd'hui ?
C'est la mémoire. Bon, puisque nous sommes en absence de jingle parce que des gens ont oublié de le passer, eh bien, ma notion pourrie est effectivement celui de la mémoire. On va revenir à Pétain parce que Macron, avec sa petite phrase, ne décrit pas un fait historique. Il est rentré les pieds dedans dans un conflit de mémoire. C'est un cas très fréquent de l'utilisation de l'histoire en politique ces dernières années, soit pour faire des grandes commémorations consensuelles, soit pour faire des... Soit pour lancer des polémiques. On parle de mémoire surtout depuis les années 1980. Cela a accompagné une vague de commémoration et le début des conflits de mémoire au moment où la France connaissait certaines crises identitaires ou des difficultés économiques. Qu'est-ce qu'il faut conserver dans les programmes scolaires ? Y a-t-il un roman national ? La mémoire pourtant se distingue radicalement de l'histoire. Selon l'historien François Hartog, la mémoire traduit la tendance présentiste de notre époque à observer le passé que à l'aune du présent, et ceci pour des raisons idéologiques, économiques ou la fin de certaines grandes idéologies. Il faudrait alors revenir à l'histoire. Non, c'est plus complexe que ça, parce qu'on a quand même besoin d'un travail sur notre mémoire collective. Un pays a besoin d'une mémoire collective. Et surtout, cela peut être dangereux, comme on le voit au Brésil, où la mémoire sur la dictature a été complètement abandonnée, tout le discours a été tu, et la mémoire a fini par intégrer la dictature comme une sorte d'étape nécessaire au développement du pays. Alors il suffit juste de s'appuyer sur la recherche et la science historique, ce que n'a pas vraiment fait Macron ici en parlant de Pétain. Parce que dans son usage du passé, il fait éviter de voir que l'État peut faillir à un moment, alors que actuellement Macron est lui-même fortement critiqué à la tête de l'État. Ce qu'il dit relève alors d'une mauvaise compréhension de l'histoire, parce qu'il ne faudrait peut-être pas commémorer le héros de Verdun, parce que c'était ce même statut de héros de Verdun qui lui avait permis d'arriver tranquillement au pouvoir et d'installer un régime dictatorial. Donc en plus d'attaquer la science historique avec la subtilité d'un hippopotame bourré, Macron manie la mémoire comme un Alzheimer.
Merci beaucoup Arthur pour cette notion pourrie et donc avec toujours un petit peu de retard mais c'est pas grave, on va s'en sortir. 19h27 sur Transistor, tout de suite on passe à l'économie. Bonsoir Charlotte, il me semble que tu as une devinette.
Ouais, j'ai une devinette pour vous. Si je vous dis trottinette électrique, effondrement du pont de Gênes et JO 2024, vous me dites rien. Les transports, c'est la clé de voûte du système économique national et on en parle peu Rémi, mais le gouvernement a présenté son plan transport pour le quinquennat.
Alors, quelles sont donc ces mesures que prévoit le gouvernement, Charlotte ?
Eh bien, la ministre des Transports, donc Elisabeth Borne, a annoncé dans une longue interview à la Tribune toute une série de mesures, de réformes et d'orientations pour un budget total de 13,4 milliards d'euros sur le quinquennat. Et je vous en ai sélectionné les principaux points. L'annulation de la prolongation de la A45 de Lyon à Saint-Étienne, ce qui rend très triste tous les étudiants en économie qui se rendent à Saint-Étienne tous les jours à l'ENS. La relance du projet de la LGV Bordeaux-Toulouse, remettre à l'ordre du jour le projet du canal Seine-Nord-Europe, une loi sur les mobilités, la bien nommée loi dite sur les mobilités, la LOM pour les intimes qui favorise les mobilités douces et les transports en commun, et une mission de révision de l'état des ponts de France, commanditée par le Sénat après l'effondrement du pont à Gênes, et une amélioration des infrastructures globales pour 400 millions d'euros. Donc tu vois, le programme est très chargé.
Bon, alors quel est le sens économique de tout ça?
Eh bien, vous le savez peut-être, une partie de ces mesures s'inscrivent dans l'esprit d'une politique finalement de grands travaux. Ce genre de politique consiste à construire d'immenses infrastructures sur le territoire national et un grand classique de ce que les économistes appellent une politique de relance. Je m'explique. En lançant de grands travaux, l'État mandate des entreprises de BTP qui se voient obligées d'embaucher pour honorer leurs contrats. De ce fait, des milliers de gens qui souvent étaient au chômage augmentent leur pouvoir d'achat, stimulent l'économie en consommant. La demande augmente, les entreprises produisent plus, embauchent davantage à leur tour dans d'autres secteurs. Tout cela est merveilleux, c'est ce qu'on appelle en économie l'effet de levier. Donc en fait, vous comprenez, vous construisez des routes et vous sauvez un PIB.
Donc si je comprends bien, la seule motivation de ces réformes, c'est réutiliser les vieilles recettes pour relancer l'économie.
Bah en fait, pas uniquement, puisque tu t'en doutes, la recherche économique a avancé depuis les années 30 et on s'est rendu compte que les politiques de transport étaient bénéfiques à l'économie pour encore d'autres raisons. Donc je vais en citer deux. Celle finalement qu'on pourrait appeler celle de la croissance endogène. L'économiste Robert Lucas a montré qu'investir dans les transports permet en renforçant le maillage du territoire, de favoriser les échanges, d'accélérer les transactions et les délais économiques et donc favorise et accélère la croissance économique. Et puis, au début des années 2000, trois économistes, Morgan Stern, Diamond et Azari Diez, vous oublierez les noms, moi aussi, ont montré qu'une partie du chômage était due à ce qu'on appelle un spatial mismatch, c'est-à-dire que les travailleurs sont à un bout du territoire et les employeurs à un autre. La situation est donc complètement absurde. Les patrons normands cherchent des ouvriers et les ouvriers alsaciens cherchent du travail. Et donc finalement, la LOM permettrait par exemple, et c'est dans l'esprit de Macron très présent, de favoriser la mobilité sur le territoire pour répondre à cette sorte d'absurdité économique qu'est le spatial mismatch.
Bon, alors j'imagine que derrière tout ça, on parle de transport, il y a forcément l'idée de vouloir « make our planet great again ».
Absolument, la politique de transport est un des outils économiques les plus efficaces pour lutter contre la pollution et le rejet de gaz à effet de serre. La volonté de favoriser les transports en commun, les mobilités douces, en établissant par exemple une nouvelle législation sur les trottinettes électriques ou en donnant des primes pour l'achat de voitures électriques le montre bien sûr.
Bon, merci pour ces éclairages, mais si on prend un peu de recul, quel est vraiment l'esprit général de cette politique de transport?
Eh bien, t'as raison, il faut prendre un peu de recul et quitter l'économie pour percevoir un peu l'esprit. J'aimerais pour ça citer un essai d'un politiste et d'un économiste anglais que j'aime beaucoup, qui s'appelle David Goodhart, et qui a écrit un livre qui a fait grand bruit à sa sortie en 2016, qui s'appelle, vous connaissez peut-être, « The Road to Somewhere ». Et dans cet essai, que je trouve personnellement très intéressant, Goodhart considère que le clivage le plus palpable dans les sociétés des pays développés actuels, c'est plus celui entre la gauche et la droite, complètement désuet, ni celui pourtant séduisant, mais déjà simpliste et caduque, proposé par certains géographes comme Christophe Guilly de centre-périphérie, mais celui entre les somewheres et les anywheres.
Alors, c'est-à-dire ?
Eh bien, l'antagonisme qui fracture nos sociétés, si tant est qu'il en existe un, bien sûr, soyons marxistes, est celui entre les somewheres, ceux qui dominent l'espace, qui n'ont pas d'attache, qui sont mobiles, et les autres, ancrés dans leur patelin, qui bougent pas, qui ont une peur bleue de la mobilité. Finalement, les somewheres et les anywheres, c'est un peu comme les nomades et les sédentaires, sauf que l'échelle de valeur s'est inversée.
Alors derrière la politique de Macron, on peut percevoir cette volonté de pousser la société à devenir des anywheres.
Eh bien, effectivement, et on pourrait conclure en disant que finalement, avec Elisabeth Borne, au royaume des Bornes, les aveugles sont rois.
Ouh là là, merci beaucoup Charlotte pour ce petit bouquet final et pour tout cet édito économique qui éclaire donc cette réforme 19h32. Normalement, on devrait déjà être à la culture. Promis, on y passe très vite. Mais d'abord, une dernière petite actu qui en dit long. Tapis. C'est une trouvaille du site L'Usine Nouvelle, saine lecture pour Jean Sérieux en costume postmoderne entre le café et la première livraison de béton armé du matin. L'avenir assurément appartient à ceux qui se lèvent tôt pour lire L'Usine Nouvelle, je vous le promets. Enfin, une trouvaille, disais-je, qui a été mise aux enchères la semaine dernière et était estimée entre 1,5 et 2 salaires annuels d'élèves normaliens. Il s'agit d'un bureau, en noyer, réalisé par un atelier de design parisien à partir d'une mythique Porsche 911 de 1963. Mythique, vous dis-je, quatre solides pieds de noyer soutenant un rutilant capot prêt à se soulever sur la mécanique de votre travail du jour. Rendez-vous compte, imaginez-vous attabler un plein de café dans le réservoir, le numéro de la semaine de L'Usine Nouvelle comme tableau de bord, et hop, un tour de clé. Le moteur ronfle sous les reflets rougeoyants du plateau. Quelle heure est-il? 7h, 8h, 9h, peu importe. Un tour de clé, vous dis-je, la machine est lancée, le paysage défile, vous avalez l'un après l'autre les rendez-vous d'affaires, les mails en retard, les contrats à signer, les coups de fil au banquier, au comptable, au notaire, les réunions de projet, les dossiers à traiter, plus rien ne vous arrête, le monde est une autoroute et vous avez une Porsche. Enfin, de la vitesse, du flou, de la liberté autour de vous, plus de murs, plus de téléphone avec son fil qui pendouille, plus de secrétaire revêche en tailleur gris, plus de photos de ses enfants dont vous n'avez peut-être même pas vraiment voulu, plus de plans d'évacuation des locaux en cas d'incendie, plus de VMC qui fait bzzz, vous respirez, vous vous élevez peu à peu, tout défile, une vache dans un champ, le fantôme de votre mère qui revient vous hanter les dimanches soirs en hiver, le risque que peut-être votre quotidien d'effort et de lecture de l'usine nouvelle serait inutile, tout défile, tout disparaît, peu à peu, enfin.
Vous écoutez le journal radiophonique amplifié de Transistor.
19h34, passé de 20 secondes. Bonsoir Léa, bonsoir Sarah.
Bonsoir Rémi.
C'est parti pour... C'est fantastique, parfaitement en cœur. Allez, c'est parti pour le journal de la culture.
Les Zola, les Sartex et les Degas, les Pascal et les Goya, dont on ne se lasse pas, la culture est une valeur.
Coucou Léa, alors tu m'as parlé de décentralisation culturelle tout à l'heure.
Oui, car à l'occasion du référendum de dimanche dernier concernant l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, je me suis penchée sur les politiques culturelles menées actuellement par l'État français en Outre-mer. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer aux progrès scientifiques et aux bienfaits qui en résultent, stipule l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Certes, mais en pratique, ça se passe comment ? On le sait, l'expression culturelle, tout comme l'accès aux productions culturelles, ne vont pas de soi. Elles ont un coût, tout d'abord, et puis besoin d'un certain espace dans lequel se déployer. Espace physique, certes, mais un espace institutionnel peut aussi aider. Et cet espace, il faut encore qu'un public puisse y accéder. Ainsi, il est plus facile d'aller au théâtre quand on habite à Paris que dans un petit village au fin fond de la Creuse. Mais, contrairement aux apparences, il y a pire que la Creuse. Car, comme le disait Mathilde Serel sur France Culture, en termes d'équipement culturel public, les 13 000 habitants de Guéret, dans la Creuse, sont mieux lotis que les 160 000 de Fort-de-France. Attention, je ne dis pas que ces territoires d'outre-mer sont plus pauvres culturellement que les territoires métropolitains. Bien au contraire, ils sont lieux d'épanouissement d'une culture foisonnante et riche, produit d'une histoire haute en couleurs. Mais cette culture ne dispose pas forcément des mêmes facilités d'expression qu'en métropole. En avril dernier, dans le cadre du plan « Culture près de chez vous », avait été révélée une cartographie des équipements culturels publics, cartographie qui dessinait un véritable gruyère, montrant les limites de cette décentralisation culturelle dont on parle tant, mais qui est si difficile à concrétiser. Cette cartographie identifiait 86 territoires dotés de moins d'un équipement culturel pour 100 000 habitants. La moitié de ces déserts culturels étaient concentrés dans 8 départements, dont 4 sont d'outre-mer. Vous connaissez sans doute le dicton « La culture, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale ». Eh bien, pour continuer à filer des métaphores culinaires, peut-être serait-il temps d'étaler enfin plus uniformément notre culture, ou de... d'étaler enfin plus uniformément notre confiture, ou plutôt, devrais-je dire, nos confitures. Promenons-nous dans les bois, pendant que Louis n'y est pas. Alors Sarah, ne m'as-tu pas soufflé que tu avais pénétré dans le bois de Boulogne pendant les vacances ?
Oh Léa, tu me connais trop bien. Je suis étonnée. Mais laisse-moi vous éclaircir sur cette délicieuse concupiscence. Sais-tu ce que recèlent les bois, chère Léa ? Un jardin d'acclimatation où l'on exhiba quelquefois des singes ? Pardon, je voulais dire des gens pas tout à fait blancs ni tout à fait européens. Puis il doit y avoir deux ou trois mots dans Body Léopard, et je passe les détails de la flore intestine pour arriver à l'essentiel. La fondation Louis Vuitton. Moi, c'est pas tellement la faune canine que je visite à Boulogne, mais plutôt le petit Louis, à défaut de petit Grégory.
Revenons à nos moutons, à nos agnons, Sarah. Tu pestais à cause de la pluie à Paris et des queues longues comme des échelles de pompiers devant les musées. Si la file était si longue et déterminée, c'est qu'il devait bien y avoir un événement sympathique, non ?
Quel flair, Léa ! Je te verrais bien en Sherlock Holmes. Deux raisons m'ont convaincue de renoncer à tout principe pour accourir à guichet malgré moi à la Fondation. D'abord le bâtiment, élaboré par Frank Gehry, qui vit à Los Angeles mais a travaillé aussi bien pour le Guggenheim de Bilbao que pour la DZ Bank Building de Berlin, entre autres. L'architecture de la Fondation livre une impression de légèreté et de fantaisie aux allures futuristes. Faite de blanc, de vert, de bois et d'une pierre aux teintes pastel, elle vous attire telle une bulle de coton. Pour découvrir son vaste intérieur, à peine révélé de ci, de là, par des fenêtres ouvertes sur forêt, vous êtes capable d'attendre des heures. Oh oui, aussi doucereux soit le crachin et fielleuse la voisine de queue.
Et la seconde raison de ta détermination, Sarah ?
Les deux expos du moment. Plus de 120 œuvres de Jean-Michel Basquiat et un nombre similaire pour la centenaire de la mort de Egon Schiele. Ils sont visibles jusqu'au 14 janvier 2019. De la pure jouissance oculaire. L'expo principale demeure, je pense, celle de Basquiat, cet artiste des rues qui pressentit, d'après certains cartels, l'ère réticulaire d'Internet. Et surtout, dont les œuvres portent les germes de l'underground. Elles sont disposées selon des étages thématiques, bien expliqués par des cartels pédagogiques, faciles à lire, même au bout de deux heures de traînaillerie émerveillée. Basquiat et son matos de rue, Basquiat et ses grands héros, Basquiat contre le racisme, Basquiat et Warhol, efficace et agréable. J'avais simplement vu deux ou trois de ces tableaux au cours d'expositions antérieures, et si je m'étais déplacée jusqu'à Neuilly, j'avoue, c'était plus pour voir la prometteuse expo Schiele que le pinceau de Jean-Mi. Mais j'avoue, je suis ressortie complètement convaincue. Et puis c'est sympa, entre deux étages, vous pouvez jeter un œil à la physionomie du gars. Une dizaine de photos le montrent à l'œuvre, et franchement, il avait plutôt l'air sympa. Imaginez quand même, les trois têtes enfin réunies, des portes peintes, le fameux dinosaure des petits pèzes et le mur des têtes qu'avait exposé, selon le souhait de l'artiste, l'excellente Robert Miller Gallery de New York, celle-là même qui a exposé les photos de Patti Smith réunies dans le recueil Camera Obscura.
Et alors, Schiele, c'était comment ?
Toujours aussi agréable. Mais je pense que le Leopold Museum de Vienne a réuni cette année les œuvres principales, notamment les peintures. Il organise en effet une grande rétrospective à l'occasion du centenaire de la mort de Schiele, emporté par la grippe espagnole en 18. Remède foudroyant face aux problèmes de finances, essayez donc. L'expo Schiele de la Fondation est nettement moins développée que celle de Basquiat. Néanmoins, elle regroupe une centaine de ses dessins, plus quelques peintures, et des cartels toujours aussi intéressants pour les néophytes. Mais gare au monde, cela bouchonne tellement que j'aurais pu compter les poils des jolies dames aux jambes levées.
Mais heureusement, tu manques de grossièreté pour ce faire.
Je crains surtout de manquer de doigts. Enfin, oublions ce manque de tact et rappelons à nos auditorices que le bois de Boulogne, c'est pas mal quand Basquiat s'y invite. Avec un petit avant-goût des productions de Schiele en plus. Et tout ça pour 10 euros si vous êtes encore à votre première barbe. Alors sautez sur l'occasion et fourrez vos billets ailleurs que dans les gants doucereux de mode.
Bref, la double expo Basquiat-Schiele, c'est jusqu'au 14 janvier 2019 à la Fondation Louis Vuitton. Et c'est aussi agréable qu'instructif.
Et oui, courez-y chères auditorices, à moins que vous ne préfériez rester à Lyon. Et toi Léa, du coup, qu'as-tu à nous recommander par ici ?
Eh bien, je pourrais vous inviter, par exemple, à visiter l'île aux monstres ou la vallée des fées.
Vaste programme en perspective. Dis-nous en plus, on s'y rend comment ?
On prend ses deux jambes, un vélo, on saute dans un tram, on enfourche son fidèle destrier, on sort du placard son Imbus 2000 ou autre, et on file au musée des Confluences, dont les deux nouvelles expositions temporaires sont magnifiques.
J'imagine que tu as été les visiter ce week-end.
Tu imagines bien, Sarah. Ayant allègrement procrastiné durant cette semaine de vacances, j'ai sorti samedi après-midi mon précis de phonétique historique, Les Ouverts, contemplé longuement, et me suis dit que cette exposition que je vous avais annoncée lors du dernier JRA, il était grand temps que je la visite. J'ai donc mis de côté ma mauvaise conscience et mes fiches de phonétique et je suis partie voir les derniers calaches au musée des Confluences, après avoir refait un petit tour parmi les lignes d'horizon d'Hugo Pratt qui, j'en profite pour le dire, habilleront encore le musée des Confluences jusqu'au mois de mars.
Et ces derniers calaches, Nikoff, comment vont-ils ?
Pour être honnête, ça n'a pas l'air d'aller très fort. Aujourd'hui, la communauté Kalash est estimée à 3000 membres, ce qui n'est pas beaucoup, vous en conviendrez, et elle subit diverses pressions de la part de ses voisins. Elle vit dans trois étroites vallées, encastrées au nord du Pakistan, vallées qu'elle partage avec des esprits invisibles, des fées, et ses voisins ont un peu de mal à composer avec cette société polythéiste, la dernière de l'arc himalayen. Mais ceci étant dit, l'exposition, elle, n'a rien de nostalgique ou de passéiste. Elle s'appelle d'ailleurs « Fêtes himalayennes » et nous présente les Kalash à travers leurs fêtes sacrées, composées d'offrandes aux dieux, de danses rituelles, mais aussi de plaisanteries obscènes pour chasser les ténèbres et de joutes verbales, les beaux chants aux mots sales.
Oh ben ça m'intéresse alors.
Oui, je savais que ça t'intéresserait, Sarah. Mais j'ai même encore mieux pour toi, car après avoir déambulé parmi de magnifiques chaussons, chamaniques ou non, et appris avec délectation ce qu'était le jour de l'hécatombe des boucs ou celui dit « en route pour les haricots », j'ai quitté avec regret l'univers enchanté des Kalash pour pénétrer dans celui, tout aussi fascinant, de l'île aux monstres.
Tu parles, je suppose, de l'exposition Yokai no Shima, Esprit du Japon ?
Exactement, Sarah. Et là, je dois dire que ce fut un coup de cœur. L'idée, c'est de photographier des éléments traditionnels, mais hors du cadre spécifique de la tradition, justement.
Eh bien, le programme a l'air sympathique.
Et il l'est. Ce qui est remarquable, surtout, c'est que cette exposition soulève la question du regard que l'on pose sur une culture, et qu'ici le regard biaisé et étranger que le photographe français pose sur un univers culturel qui n'est pas le sien reste humble et assume ses limites. On sort des clichés habituels, en somme.
Si j'ai bien compris, tu nous recommandes donc d'aller faire un petit tour au musée des Confluences.
Oui, Yokai no Shima, l'île aux monstres et aux esprits, s'y est installée jusqu'en août 2019 et les fêtes himalayennes jusqu'au 1er décembre 2019.
Il giornale radiofonico dell'amplificazione.
Sur Transistor.
19h43 sur Transistor. Merci beaucoup Sarah et Léa pour votre journal de la culture. Et la culture ne s'arrête pas là dans l'amplifié, puisque tout de suite on vous retrouve Maë et Benoît pour votre chronique musicienne. Bonsoir.
Bonsoir, et on commence par un poème. L'ami, docile ami, fa, do, sol, si, ré, la, sol. Ah, si facile, adoré.
Ré, si, do, ré, si, la, fa, do. L'âme, il, ami, si, mire, effaré.
Ou je vais dire des trucs simples. I need somebody.
Mercredi prochain, la halle Tony Garnier aura l'honneur d'accueillir sur scène Thiéfaine, Hubert Félix de son petit nom, en pleine tournée anniversaire.
Un gâteau d'anniversaire pour ses 70 ans ?
Presque. En plus de souffler ses 70 bougies avec une énergie live qui ne s'est jamais ternie, ce grand monsieur de la chanson française célèbre cette année ses 40 ans de carrière et la sortie de son premier album en 78, sobrement intitulé « Tout corps vivant branché sur le secteur » étant appelé à s'émouvoir, comprenant son emblématique morceau « La fille du coupeur de joint ».
Elle descendait de la montagne sur un chariot chargé de paille.
Après 17 albums studio, 8 lives, 2 concerts donnés à la Maison de la Radio et à la Maison de la Poésie, Thiéfaine reprend la route cet automne pour donner 12 concerts marathon, piochant dans l'essentiel des pépites de ces 4 dernières décennies. On y retrouvera donc avec joie les rythmes folk et le ton humoristique décalé de ses débuts, comme ses teintes plus sombres et rock des années 2000. Une parfaite occasion de se mettre au chaud par ce temps pluvieux, ou encore simplement de découvrir un artiste très complet, aux textes teintés d'une mélancolie crépusculaire, dont son dernier album, Stratégie de l'inespoir, en est peut-être le plus habité.
Je croise des soleils aux ardeurs érotiques, avec des cris perdus sur des sourires de femmes, bercés par les étoiles d'une essence romantique.
Cette tournée est donc une occasion de voir tout ceci et d'apprécier le lien quasi magique unissant Thiéfaine à la scène, épaulé de son excellent guitariste Alice, dont les solos continuent de me hanter. Maë, tu étais à l'auditorium hier soir. Comment était-ce ?
20h. Le parterre et les balcons de l'auditorium grouillent de conversations. Les sièges grincent. Une odeur de parfum, de respiration et de tissu flotte dans l'air. 20h. Doucement, presque insensiblement, l'intensité de l'éclairage se réduit, réclamant un silence qu'elle ne tarde pas à obtenir. Quelques secondes d'attente avant qu'éclatent les applaudissements rituels. Un homme s'avance sur scène, un homme grisonnant et bedonnant en costume qui, depuis le deuxième balcon où je suis installée, semble minuscule. Il passe derrière son piano à queue immense, pourtant ridicule au milieu de la grande scène vide. D'un geste fluide, il soulève sa redingote et s'assoit. Il pose ses mains sur le clavier. Ça vient de commencer. Ça vient de commencer. Non pas un concert, non pas un récital, pas même la sonate numéro 3 et les nouvelles bagatelles de Beethoven, ni même 4 impromptus de Schubert. Ça a commencé. Ça, C'est la musique d'un interprète exceptionnel dont le doigté fait oublier jusqu'à la substance concrète du clavier, de l'instrument, pour ne laisser que les notes, les nuances, un langage exotique qui nous va droit au... Bon d'accord, j'arrête, ça devient trop mélo.
Mais qui est cet homme, May?
Cet homme, ce grand homme, ça va, j'arrête. C'est Grigori Lipnanovitch Sokolov, qui est sans doute un des plus grands pianistes concertistes au monde.
Le plus grand, May, le plus grand.
Le plus grand. Il est à la fois la rigueur et la précision technique et la finesse de l'interprétation. Sa main gauche s'envole, légère, se tend vers les aigus, rebondit vers les graves. Elle ondule, ainsi portée par on ne sait quelle brise, et voilà que naît une impromptue de Schubert, que surgissent des notes douces et pleines de force. Il joue avec le rythme et les nuances, avec une aisance et une personnalité qui ne saurait être feinte. Voilà que cette chronique touche à sa fin, et il me semble avoir tout et rien dit, n'avoir pas vraiment su vous faire sentir l'importance, si ce n'est la nécessité, d'aller écouter Sokolov.
Merci beaucoup Maë, et contrairement à lui, tu ne nous feras pas si rappel parce qu'on est déjà en retard, mais quel homme extraordinaire, effectivement, que j'avais la chance de voir pour la troisième fois hier aussi, et c'est vrai qu'il faut absolument vivre ça, mais là on est en retard, du coup j'arrête de parler, jingle.
Air-conditioned bunker where the Norwegians have stored heritage.
Pour revenir aux origines du massif hercynien, il faut faire un bond de
90% of blue and red light is absorbed in the upper one-fifth of a spinach leaf.
Le paramètre qui va caractériser l'ordre du système va être discontinué à la fin.
Alors, voyez-vous, dans l'Assemblée, un point commun entre le virus de la grippe, le système immunitaire et les camélidés.
Oula.
Pas du tout.
Non, aucun.
Les deux premiers, ça va, hein, mais...
Ah, bon alors, je vais remettre dans l'ordre pour vous. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de comment on pourrait utiliser le système immunitaire des camélidés pour nous permettre d'obtenir un moyen de lutte universel contre la grippe. Alors, c'est une étude qui a été publiée dans le dernier numéro de la revue Science, qui a ainsi réussi à mettre au point un type d'anticorps spécifique capable de cibler l'ensemble des virus influenza A et B, les virus provoquant la grippe, tout en étant capable de bloquer l'hémagglutinine située à la surface du virus et qui lui permet d'entrer dans nos cellules. Là où ça devient surprenant, c'est que ces anticorps ne sont pas des anticorps humains, mais des anticorps issus de l'AMA, donc de camélidés.
Et alors, quelles propriétés ont donc ces anticorps qui leur permettent d'être très efficaces et de cibler tous les autres virus?
Alors, pour rappel, les anticorps sont des molécules sécrétées par votre système immunitaire contre un pathogène après l'avoir rencontré. Ils ont chez l'homme une forme de Y, les deux branches du dessus étant extrêmement variables et pouvant se fixer à l'intrus, permettant d'une part son marquage et sa neutralisation, mais aussi sa destruction par les d'autres cellules immunitaires. Chez le chameau et les camélidés, les anticorps sont beaucoup plus petits, d'où leur nom de nanobody, et ne se composent que du bout des branches du sommet du Y, ce qui leur permet de se faufiler à la surface du virus et de se fixer sur des régions inaccessibles à nos anticorps trop gros, avec le même pouvoir neutralisant. Autre avantage, ces régions restent identiques chez tous les virus, ce qui permet avec un seul nanobody de tous les cibler.
Alors les traitements et les vaccins actuels ne suffiraient-ils pas? A-t-on besoin de ces mignons nanobodies?
Malheureusement, pas vraiment. Bien qu'un vaccin sorte chaque année contre le virus saisonnier, sa composition et les virus qu'il cible sont déterminés par probabilité en fonction des données épidémiologiques des années précédentes. En gros, on estime quels sont les virus qui ont le plus de chances d'être les majoritaires l'année suivante, et c'est eux qu'on cible avec le vaccin. Malheureusement, il arrive que le hasard fasse mal les choses et que ce soit une autre souche qui se développe, rendant le vaccin beaucoup moins protecteur. De plus, ces vaccins ne protègent pas vraiment non plus contre les souches dites pandémiques qui peuvent se développer très brutalement.
Quelle différence y a-t-il entre les virus saisonniers et les virus pandémiques alors?
Alors, le virus de la grippe, ou plutôt les virus de la grippe, sont actuellement la menace sanitaire épidémiologique la plus importante qui règne sur l'espèce humaine. Outre les virus de la grippe saisonnière, actuellement des H1N1, il arrive à intervalles réguliers que de nouveaux virus émergent par association de virus déjà existants, donnant des espèces beaucoup plus pathogènes et transmissibles. Elles provoquent alors des pandémies touchant un continent entier, voire l'ensemble du globe. C'est par exemple ce qu'il s'est passé juste après la Première Guerre mondiale, où un nouveau virus, dit virus de la grippe espagnole, a émergé et a tué entre 30 et 80 millions de personnes en l'espace de 2 ans. De manière plus récente, c'est en 2009 où le virus H1N1 pandémique 09 a émergé au Mexique et s'est répandu très rapidement dans le monde sans avoir heureusement une mortalité comparable à celui de 1919.
Et donc ces anticorps pourraient nous protéger contre ces deux types de souches.
Exactement, et c'est ce qui les rend si intéressants. Ces anticorps pourraient protéger théoriquement contre l'ensemble des souches de grippe non seulement actuelles mais aussi à venir. Mais il faut encore beaucoup de temps et de recherche.
Ah, il y a donc un petit problème.
Ah bah comme toujours, hein. Comme dans tout processus de recherche, ces résultats de protection ont été obtenus chez des souris. Et bien que prometteurs, les adapter à l'homme va demander de nombreux essais cliniques et de sécurité. Une autre inconnue est le coût et la praticité de cette méthode qui pourrait se révéler extrêmement onéreuse. Enfin, le risque de mutation du virus, bien que faible sur ces régions, est toujours possible, ce qui le rendrait alors totalement inutile. Mais comme de nombreuses choses en biologie, c'est une piste extrêmement prometteuse pour soigner la grippe, dont on oublie trop souvent la dangerosité.
Couvrez-vous bien du coup pour cet hiver. Merci beaucoup Léo pour ton édito scientifique. Pardon. 19h53, passé de 5 secondes. On termine avec un petit peu d'actualité de la radio. Aujourd'hui, nous revenons sur la sensation radiophonique de cette nouvelle saison.
Est-ce que je peux emprunter votre vélo? Alors, je vais prendre ce vélo. Merci. Je vous le rends. Alors, je vais essayer de rejoindre Jacques Souvent qui est là. Je vais faire un tour de la place de la mairie, bien entendu. Est-ce que tu dors, Poitiers? Oh, Poitiers, tu dors. Alors, je retourne. Poitiers ne dort plus, une fanfare d'étudiants, un vélo qui passe, des fraternités soudaines, des regards, les gens s'écoutent, se parlent, des mains tendues. Jacques Souvent, retour ici.
Alors vous aurez reconnu Édouard Baird, qui, on s'en souvient peu d'ailleurs, avait commencé sa carrière à la radio avec La Grosse Boule, animée avec Ariel Wiesmann sur Nova dans les années 90. Nova où il était revenu il y a 2 ans pour la matinale Plus près de toi, qui s'est vite imposée comme une fascinante émission de dose de légèreté, de chaleur quotidienne dans le paysage radiophonique. Mais c'est sur Inter que le comédien a fait sa rentrée avec Lumière dans la nuit, tous les dimanches de 22h à minuit. Le principe de l'émission, difficile à décrire, laissons Baird tenter de le faire lui-même, c'était au micro d'Ali Badou.
Mais je voudrais commencer comme une table un peu qui soit entre le pop club, les grosses têtes et le masque et la plume, c'est-à-dire des sociétaires qui commentent des choses, quoi, des choses qui nous on est un peu en fin de table, ça s'affine. On est dans le concept à donf là, vraiment. Et puis on sera dans des lieux physiques, dans des villes, donc les gens pourront passer aussi, puis on prendra des gens au téléphone, et puis c'est une sorte de petit repère, ça va être un phare dans l'idée que nous sommes tous des marins, ce qui est une métaphore puissante. On emmène les gens vers le sommeil, donc on n'a pas une obligation à être intéressant, c'est ça l'avantage.
Une tentative de description qui annonce bien le côté indescriptible, justement, d'une émission conçue comme une succession de surprises, de rencontres, comme un paysage de petites lumières allumées dans la parfois difficile nuit du dimanche au lundi. Le titre de la matinale que Baird animait jusqu'ici sur Nova, plus près de toi, décrit bien le système Édouard Baird. Parler sans filtre à l'auditeur, mais aussi l'écouter non pas comme un auxiliaire façon le téléphone sonne, mais bien comme à une personne, comme au principal invité de l'émission, ou plus exactement comme à l'invité d'une petite fête entre potes, accoudé aux zinc où l'on croise de vieilles connaissances et de parfaits inconnus. Car Édouard Baird a donc des invités, acteurs, écrivains, musiciens, mais surtout ses amis qu'il a apportés avec lui à France Inter. Fred Touche, l'irrésistible Arnaud Aymar et ses histoires enfantines et incompréhensibles. Tito, le guitariste, Alexandre Astier au téléphone depuis Lyon. Et le reporter Jack Souvent qui sillonne les rues à la rencontre de quelques oiseaux de nuit. Ce qui fascine dans ces Lumières dans la nuit, c'est l'immédiateté de la matière radiophonique dont elles sont faites. C'est une émission de pur direct, comme on en entend un peu sur les ondes publiques aujourd'hui. L'improvisation est d'ailleurs permanente, mais tout reste sous contrôle. Et il y a quelque chose d'incroyable dans la capacité de Baird à intégrer à l'émission tout ce qui aurait pu la perturber. Et c'est ainsi qu'on se sera retrouvés successivement à traverser Paris en taxi ou Poitiers à vélo, vous l'avez entendu, mais aussi à rejoindre les comédiens de la Comédie Française derrière le rideau, à croiser un auditeur descendu de chez lui avec une part de gâteau pour l'animateur, à appeler Matignon au milieu de la nuit, à faire un crossover avec la chaîne L'Équipe TV, à chercher un magasin de cannabis au Québec, à téléphoner à Nikos Aliagas à l'heure où il se couche pour lui faire rater sa matinale sur Europe 1, et puis, bien sûr, il y a tous ces enfants qui appellent.
Donc, pour résumer, à cause de la conversation de ta mère, tu as dormi cet après-midi, ce soir tu n'as plus sommeil.
Oui, exactement. Mais je voulais vous poser une question.
Oui.
Pourquoi, en fait, ma mère va regarder votre film.
Oui.
Et j'ai demandé si je pouvais regarder avec elle, mais elle m'a dit que c'est pas de mon âge. C'est vrai que ce n'est pas de mon âge?
Sarah, je vais te dire franchement. Mademoiselle de Jonquière, qui est en salle dans toutes les bonnes salles en France, est pour tous les âges. Dès l'âge de 6 mois, c'est recommandé. Et ce qui est bon, c'est de le voir 3 fois de suite par personne. Crois-moi.
Si j'ai bien compris, c'est qu'elle veut se débarrasser de moi.
Écoute, non, tiens. Non, je pense que simplement, elle a envie de mener sa vie. Tu vois, maintenant elle est grande, elle dit c'est bon, maintenant elle va être un petit peu indépendante. Tu t'es bien occupé d'elle pendant les 10 premières années de ta vie, et maintenant elle a peut-être envie de prendre un peu de liberté, qu'est-ce que tu crois? Mais elle t'aime, hein?
C'est vrai.
Elle t'aime, tu la laisses sortir seule, ta mère, ou pas?
Ça dépend avec qui.
Ouais.
Que ce soit ces voix d'enfants donc ou cette infirmière au téléphone depuis l'Aquarius où elle se prépare à un sauvetage, le téléphone offre un direct dans le direct qui crée soudain une proximité incroyable entre l'auditeur et ses voix toutes reliées. Une proximité que Bert tente d'emprunter à une figure mythique de la radio qu'il cite souvent dans ses interviews, Macha Béranger, qui a animé la libre antenne Allô Macha de 1977 à 2006 sans interruption sur France Inter dans son célèbre studio plongé dans l'obscurité. Chaque nuit, les auditeurs, rebaptisés sans sommeil, appellent et confient leurs craintes, leurs réflexions, leurs doutes et tentent de repousser un peu la solitude nocturne. Offrons-nous deux extraits de cette voix incroyable.
Eh bien, il a tout tenté pour que je me retrouve toute seule.
Oui.
Et finalement, je me suis retrouvée toute seule. Et je me suis dit que toute seule, la vie n'avait aucun but pour moi.
Oui.
Disons que j'aimerais trouver, si vous voulez, quelque chose qui me raccroche à la vie, justement.
Oui.
Bon, parce que maintenant j'ai envie de vivre, mais c'est clair que je ne trouve pas quelque chose pour me raccrocher.
Qu'est-ce que vous souhaiteriez trouver? Vous devez le savoir.
Déjà, quand vous avez quelque chose, quelqu'un près de vous, déjà ça aide beaucoup, je crois. Donc je me sens déprimée tout d'un coup parce que tout ce que j'ai envie de dire, je ne peux pas le dire.
Vous avez besoin de parler, de vous confier à quelqu'un.
Voilà, c'est ça. Et puis je n'ose même plus sortir parce que j'ai honte. Je peux plus parler. J'arrive plus à regarder quelqu'un en face, à parler. Ça me...
Et pourquoi vous ne regardez plus quelqu'un en face? Parce que vous avez voulu mourir?
Voilà, c'est ça.
Eh bien, bonsoir, Macha Béranger, avec vous jusqu'à 2h du matin. Eh bien, je suis toujours ravie de venir vers vous afin de me perdre un peu dans vos chemins de traverse et d'en découvrir délicieusement tous les paysages, comme toujours, au 45 24 7000. Allô.
Voix merveilleuse qui rappelle aussi tout le fameux âge d'or de France Inter et d'autres émissions comme bien sûr le Pop Club de José Arthur, autre référence de Bert et autre monument de l'histoire de la radio qui a vu défiler pendant 40 ans des générations d'auditeurs fidèles et des milliers d'invités de Charlie Chaplin à la Calas. Cet esprit France Inter, voilà peut-être ce que parvient à retrouver Édouard Bert en revenant justement à ce petit miracle originel du téléphone et de la radio. Au milieu de nulle part surgissent des voix venues d'ailleurs, des présences et un dialogue par-delà la distance. Et personne d'ailleurs n'aurait l'idée d'écouter ça en podcast à un autre moment qu'à 22h, le dimanche soir, sur le 101.1 MHz pour les petits lyonnais. Vous écoutiez le journal radiophonique Amplifié, une émission coordonnée par Rémi Cerda avec aujourd'hui Marie Douniac, Mathilde Piquet, Arthur Kramer, Charlotte Combier, Sarah Andria, Léa Burga, Maë Burla et Benoît Auclair. Et j'oublie aussi Léo Bertrand au passage, toutes mes excuses Léo. En régie, bien sûr, Félix qui a eu fort à faire aujourd'hui avec une table de mixage déréglée, mais on va finir par s'en sortir. Vous pouvez bien sûr nous laisser vos réflexions, vos commentaires, vos messages, surtout ceux qui sont positifs, sur Facebook ou bien sur la page de l'émission, les pages de nos chroniques. On remercie toute cette nouvelle équipe et on se retrouve d'ici 2 semaines, jeudi 22 novembre à 20h, horaire habituel qu'on maintiendra toute l'année. D'ici là, eh bien, passez un bon début de mois de novembre à l'écoute de Transistor.